bon, pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
C'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canassul à Toulouse, à Local, à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Reims, évidemment, sur Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Bon, alors on va faire encore un tour de France, là, de ce qui se passe un petit peu ailleurs. Entre autres, on va aller à Limoges, puis nous irons dans le sud, à Alès, et nous finirons dans le Poitou. Bon, on va commencer donc à vous dire qu'il y a des choses qui se passent qui sont certainement intéressantes, en particulier au niveau de l'éducation nationale, où il semblerait qu'il y a eu des réunions importantes en région parisienne, où il y a eu 36 lycées qui se sont vus récemment pour organiser ce qu'on avait dit, d'ailleurs dans une de nos émissions, pour organiser la grève du fameux bac de la classe de première qui devrait se tenir en janvier. Et là, il y a tout un boycott qui s'organise dans pas mal de lycées parisiens. On va donc je vais donc téléphoner.
Ça sera mieux. Alors oui, effectivement, il y a des échéances puisque on sort d'une période de congé à la fois scolaire et également des fêtes. Donc la reprise du travail dans l'éducation nationale était un enjeu important. Il va falloir que les gens se réorganisent, puisque avec les transports en commun et les transports collectifs, l'éducation était un des secteurs qui était le plus mobilisé, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné que la proposition de réforme des retraites créait vraiment des pertes de salaire assez importantes, assez énormes sur les projections qui pouvaient être faites chez les salariés de l'éducation nationale. Et puis d'autre part, à l'instar de ce qui se passe dans ce mouvement, il y a tout un dégoût, tout un rejet de la politique de Macron et de Blanquer que mettent à l'œuvre les grévistes de l'éducation nationale. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, je pense, avec notre camarade du Sud, de Montpellier, plutôt que d'Alès, même si on aurait bien aimé aller à Alès, c'est pas grave, en ce qui concerne les travailleurs spécifiques de l'éducation nationale. Je crois qu'on a réussi à avoir Alain. Alain, oui. Tu es là?
Allô?
Oui, Alain. Je suis là.
Salut. D'accord. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Donc tu nous téléphones de Poitiers, là, donc...
Non, de Limoges.
De Limoges, oui, de Limoges, oulala.
Il est fatigué, ouais. Il est en grève reconductible, lui aussi.
Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, là, jusqu'à ici, jusqu'à maintenant.
Oui, à Limoges, ce qui est sympa, c'est que ça a été assez massif, hein, le mouvement, durable, avec des mobilisations quotidiennes, depuis le 5 décembre. Et puis avec quelques petites actions sympas de temps en temps qui débordent un petit peu du cadre officiel des syndicats. Mais bon, ce qui est un peu dommage, c'est que il y a quand même un manque global de coordination pour essayer de faire converger les différentes luttes. Mais enfin bon, il y a quand même des éléments pas mal sympas.
Ouais, justement, je lisais un peu ce que tu as écrit dans notre mensuel Courant Alternatif, dont le numéro vient de sortir, le numéro de janvier, et oui. Tu nous disais que il n'y avait pas d'assemblée générale.
Non, voilà.
C'est quand même étonnant.
C'est quand même étonnant parce que donc les syndicats, la CGT en tête, hein, puisque c'est quand même ce qui est le plus fort ici, verrouillent quand même un peu et donc les décisions se prennent en intersyndicale, donc CGT, FSU, Sud et FSE FO. Aussi pour les étudiants.
FO aussi, certainement.
FO et FO aussi, oui. Donc ils décident en commun, même si quelquefois la CGT elle va un peu plus loin que ce qui est décidé, ou elle fait elle-même ce qui est décidé, voilà, comme la fois où il y avait un pique-nique de décider, ils ont décidé en intersyndical, mais c'est la CGT qui a réalisé toute seule, voilà. Et à part une fois où il y a quelques personnes qu'on cherchait à s'immiscer dans une AG là, qui avait lieu à la Maison du Peuple, voilà. Et sinon, il n'y a pas eu d'AG collective, interpro, etc. Il y a eu des AG enseignantes spécifiques, mais bon, essentiellement FSU, avec un peu de Sud d'éducation. Mais voilà, il n'y a pas de.
Et les cheminots ?
Et alors, les cheminots, ils s'organisent tout seuls, ils font leur truc tout seuls. Et les cheminots, ils ont leur intersyndicale, ils font leurs AG à la gare. En général, ils se mobilisent surtout sur les grosses manifs, sur des manifs un peu moins importantes, on les voit pas. Et d'ailleurs, à chaque manif, en général, ils font une AG avant la manif, sur place, à la gare, et puis ils se rendent en cortège cheminot sur le lieu de départ de la manif générale. Voilà.
Quelles sont, selon toi, les raisons de ce cloisonnement, et puis qu'est-ce qui serait un frein à l'auto-organisation des acteurs du mouvement Limougeot?
Oui, moi je pense que c'est le poids des organisations syndicales et aussi le fait que il n'y ait pas de groupes plus ou moins organisés qui essayent de dépasser les trucs. Bon, il y a bien quelques gilets jaunes qui maintiennent le flambeau de l'an dernier, ils se retrouvent entre eux, hein, finalement. Ils sont présents sur les manifs, mais voilà, ils élargissent pas leur base et il n'y a pas eu un seul appel. En fin de manif, il y a toujours des discussions informelles, surtout quand il y avait une des grosses manifs qui s'est terminée dans ce qui s'appelle le Champ de Juillet, qui est un grand parc, ouais, du centre-ville, à côté de la gare. Évidemment, il y a plein de gens qui discutent, mais de façon très informelle, et personne n'a songé à appeler à faire une AG interpro. Et je pense qu'il y a beaucoup de corporatisme quand même. Hein. Ça se voyait aussi avec le mouvement des hospitaliers. Hein. L'hôpital, le CHU est quand même en grève, en lutte depuis 6 mois au moins. Ils font leur truc à eux. Ils mettent des banderoles sur l'hôpital, ils sont en grève tournante en réalité. Ils sortent peu de leur
cadre. Hein.
De leur cadre, et puis quand on veut leur parler d'autre chose, il y a eu deux trucs moi que j'ai relevé. Un peu avant le mouvement là, sur les retraites, donc fin novembre, on avait fait un rassemblement devant l'hôpital contre les tests osseux sur les immigrés. Ça a été impossible de trouver des gens parmi les syndicalistes ou les personnels hospitaliers qui voulaient bien discuter de l'intérêt de
se mobiliser par rapport à ça
aussi sur ce thème-là. Il reste sur les thèmes très corporatistes. Et puis l'autre truc, il y avait une manif, c'était aussi fin novembre, je pense, sur sur le maintien des lignes SNCF locales, etc. Donc ça, c'était plutôt impulsé par Écolo, Gilets jaunes, et puis les cadres cheminots, hein, les cadres syndicaux cheminots, parce qu'il n'y avait pas une mobilisation générale des cheminots. Et bon, cette manif, on a décidé de partir ensuite parce qu'on savait que les hospitaliers, là, pour une fois, ils s'étaient rassemblés au centre-ville sur une autre place. Et quand on est arrivé, ils se sont dispersés parce que les gilets jaunes leur faisaient peur, quoi. Voilà. C'est assez lamentable.
Et pourtant, il y a du monde dans la rue.
Voilà. Par contre, il y a énormément de monde. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Le 5 décembre, il y avait à peu près 20 000 personnes. Les grosses dates, c'était...
Le 17, quoi.
Le 17, c'était encore à peu près 18 000.
Tu peux nous dire, pour les auditeurs, qui c'est énorme pour Limoges. Il y a combien d'habitants à Limoges?
Et l'agglo, ça fait à peu près 135 000.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est plus petit, Crasse.
Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est des mobilisations très importantes. Sans compter que, donc ça, c'est les grosses manifs, mais que la décision qui avait été prise à un moment de faire des manifs, des rassemblements tous les jours, elle s'est tenue. Donc, les jours qui n'étaient pas de grosses manifs, il y avait quand même des rassemblements de quelques centaines à 2000 personnes qui manifestaient.
C'est
il y avait,
pas mal.
Ce qui est quand même une... c'est une indication quand même que le mouvement touche largement, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'impliquer. J'ai fait à peu près toutes les manifs, là, sauf un peu moins pendant les vacances de Noël, là, parce que j'étais un peu parti, mais les gens s'impliquent et se mobilisent largement.
Mais oui, c'est quelque chose qu'on ressent aussi ici, nous ici à Reims, c'est-à-dire que d'un côté, on a des syndicats. On va mettre un gros large, hein, des syndicats qui ont du mal, qui ont l'impression qu'ils ne savent pas gérer et exploiter le succès, le potentiel qu'il y a, et de l'autre, malheureusement, absolument aucune proposition d'auto-organisation autonome qui soit non pas forcément prise en charge par un groupe politique, mais en tous les cas des gens qui assumeraient de faire des propositions politiques crédibles et autonomes, quoi.
Ça qui est dommage, effectivement. Bon, alors, peut-être que c'est l'absence de discussion préalable, je pense, aussi dans ces groupes, parce que, c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe. Bon, à part le NPA, il n'y a pas de groupe, LO un tout petit peu, il n'y a pas vraiment de groupe d'extrême gauche, et les ANAR encore moins, il n'y a plus de CNT, il y a des bribes, quoi, disons, quelques individus, mais c'est plus de groupes organisés. Les gilets jaunes, bon, de Limoges, c'est pas... Il y a quelques personnes qui continuent à suivre, bon, mais l'animateur est aussi quelqu'un du NPA.
D'accord.
Et puis, bon, un peu différent, il y a les gilets jaunes de la montagne.
De la montagne,
Limousine,
ouais.
Voilà. Qui eux sont plus des gens radicalisés qui ont une réflexion politique mais qui descendent pas régulièrement sur Limoges. Voilà, ils ont participé aux principales manifs mais ils sont pas toujours présents.
Voilà. Ouais, ouais. Et il y a des grèves? Il y a des gens qui sont en grève ou pas?
Alors des grèves non quand même sur le en dehors des cheminots évidemment. Il y a eu des grèves ponctuelles au moment des grosses manifs, que ce soit dans d'autres services publics, hein, les impôts, la poste, l'éducation nationale, etc. Mais bon, même s'il y avait eu des préavis de grève reconductibles tous les jours, etc., la réalité, non, les gens ne se mobilisent que sur les grosses manifs.
Les grosses manifs, ouais.
et les jours de grosses manifs. Et dans les boîtes privées, c'est pareil, hein, parce que bon, on les a vus, effectivement, dans les boîtes comme la métallurgie, le grand, les commerces aussi, Carrefour, ou des trucs comme ça. Il y a eu des délégations au moins, mais ouais. Je pense qu'il y avait une partie des personnels en grève sur ces grosses sur ces grosses manifs, sur ces journées d'action principales, mais pas en face, de façon continue, quoi.
Ouais. Et le 19, alors comment que ça se prépare? Enfin, pas le 19, le 9.
Je pense que ça va être à nouveau une grosse manif. Bon, normalement, ça se sent. Je pense que les gens ont bien compris la manœuvre de faire traîner un peu que le gouvernement veut faire traîner pour essayer de noyer le poisson et puis de racoler de raccrocher la CFDT, etc. Mais je pense que la colère et la mobilisation n'est pas retombée. Bon, il y a eu quelques mobilisations. Enfin, on a continué en pointillé pendant les fêtes. Moi, j'avais fait la. Il y a eu une petite manif le 24 décembre au matin. On est allé devant la préfecture. Il y a eu quelques petites actions parallèles. De mise en grève des parcs-mètres, pendant cette manif. Il y a eu une manif devant la CARSAT le 26 décembre aussi. Samedi dernier, il y a eu encore une manif. Donc, voilà, la mobilisation s'arrête pas. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se réservent pour ressortir en masse le 9.
Et puis peut-être le 11. Mais écoute, on te remercie, Alain.
Voilà.
Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Merci. Hein.
Au revoir. Au revoir.
Allez, allons-y.
C'est pas de Dallès qu'il est, c'est 7.
Avec notre deuxième interlocuteur,
rentrer un petit peu, essayer de comprendre comment faire justement pour participer à ce mouvement de grève, et notamment quand on est précaire. Et quand on est dans des secteurs où ça paraît un peu plus difficile de se mobiliser. Yann, tu es avec nous, tu nous entends ?
Ouais, ça va, je vous entends. Salut tout le monde.
Ouais, salut. Merci d'être avec nous. D'abord, avant de rentrer dans le détail, puisque toi, tu es un travailleur précaire de l'éducation nationale depuis déjà un certain nombre d'années.
Ouais.
Est-ce que tu peux t'atteler à la tâche de nous parler un petit peu du mouvement qui a lieu dans, alors peut-être pas dans ton département, mais en tous les cas dans ta région, puisque t'es dans le bassin de Thau, à 7 très exactement.
Ouais, mais, ça, mais on va parler
aussi
on
de Montpellier, ouais.
Du département, au moins de l'Hérault, parce que bon, faut avoir un peu, faut avoir un petit peu une vue un peu géographique là du territoire, parce qu'il y a il y a trois villes où ça bouge un petit peu, même si c'est relatif. Il y a Montpellier, bien sûr. Il y a 7 un petit peu. Il y a Béziers, où parfois ça bouge aussi quand même pas mal. Et c'est, faut dire la vérité, par chez nous, c'est essentiellement du fait de la grève des cheminots.
Ouais.
Qui est très suivi et qui le tempo de la mobilisation, quoi. Deuxième secteur qui s'est mis en mouvement, c'est l'éducation. Mais là, pour le coup, depuis le décembre, un peu sous couvert d'une, on va dire, d'une fausse reconductible, quoi.
Qu'est-ce que tu entends par ce terme de fausse reconductible?
Bah, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de retour au travail, en fait. C'était beaucoup de jours de grève entrecoupés de retour au travail, y compris par des collègues qui étaient en dynamique reconductible, quoi. Par exemple, on retournait le travailler le vendredi pour pas se faire
taxer le samedi et dimanche.
Taxer le week-end à cause de l'arrêt au Mont, quoi.
Ouais, la fameuse
ça nous a quand même un peu intoxiqué, en vrai, l'arrêt au Mont, quoi. Donc c'est pour ça que je dis qu'on était dans une fausse reconductible. Et ça nous a peut-être empêché de tisser plus de liens avec les cheminots, qui eux étaient dans une dynamique de grève un peu plus dure.
Et dans ton bahut, comment que ça se passe? Il y a des assemblées générales, comment que ça se passe?
Alors dans mon bahut, comment ça s'est passé? On s'est servi des heures d'info syndicales, surtout, pour en faire des sortes d'AG détournées. Et on a tout de suite posé la question du 5 décembre et de après. Et donc on a été un petit nombre à partir directement reconductible à partir du 5, quoi.
Et au niveau de la solidarité financière, ça marche ou pas?
Alors il y a pareil, là il y a plusieurs niveaux, quoi. Il y a les caisses de grève un peu globales qui existent à l'échelle du département. Il y en a une spéciale qui a été créée par l'AG des grévistes de l'éducation au niveau départemental. Et nous, on en a créé en plus une à l'échelle de notre établissement. Parce qu'on était quand même sur 30-35 personnels, on était 7 en grève reconductible.
Ouais.
C'est pas énorme, mais ce qui est comparé à d'autres endroits, ce qui était pas trop mal, quoi.
Mais je crois que c'est très intéressant ce que tu soulignes par le fait de faire des espèces de grèves en pointillés ou dans de fausses reconductibles, c'est-à-dire que tu vas avoir un positionnement par rapport au mouvement où tu vas pas pouvoir t'impliquer corps et âme à l'intérieur, en fait. Tu vas pas t'immerger dans ce mouvement. Alors, ce que tu me racontais par rapport au fait que vous étiez en reconductible, toi, c'est que tous les jours, t'étais en grève, et donc tous les jours, t'étais dans le moment et t'essayais de proposer quelque chose ou d'animer ce mouvement-là, quoi. À la différence de tes collègues de ton collège où, effectivement, bon, on peut donner un billet, mais il y avait un espèce de détachement, quoi.
Ouais, alors nous, voilà, ce qu'on s'est dit, bon, on a essayé de la jouer quand même avec les collègues, pas trop se mettre dans l'opposition avec les collègues qui étaient plus sur la stratégie des temps forts. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est si on se met en grève reconductible, c'est que tous les jours, on doit faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire chaque journée doit être occupée par quelque chose. Soit ça va être, on va faire le tour de tous les établissements de la ville, de tous les écoles primaires, les collèges du secteur, soit va y avoir les journées de manif, soit on va aller sur un piquet, ou tous les jours on fait quelque chose, y compris le dernier jour avant les vacances, on a aussi organisé une soirée de soutien à la caisse de grève, en fait, de notre établissement, quoi. On a essayé chaque jour de faire des choses, même petites à notre échelle, pour se mettre vraiment dans une dynamique de lutte et pas seulement ne pas travailler, quoi. Parce que ça pouvait pas, pour nous, ça pouvait pas suffire. De la même manière que les journées de temps fort, on a essayé de porter dans les assemblées générales que seulement manifester dans ces journées-là, parce que souvent c'est ça qui s'est passé par chez nous, à Montpellier au moins. Et c'était pas suffisant, qu'il fallait que ce soit au moins des journées où on les accompagne de blocage, quoi. Et pour l'instant, ça c'est pas encore, on n'a pas encore réussi à franchir ce cap, quoi, par chez nous.
Alors pourtant, il y a eu quelques petites expériences et tentatives, hein. Il y a pas mal de grosses boîtes et d'entreprises dans le bassin de Thau. Malheureusement, il n'y a pas une grosse participation du secteur privé. Mais il y a un dépôt de carburant à Frontignan, je crois, qu'il y a eu des tentatives de blocage.
il y a eu des tentatives de blocage, certaines ont plus ou moins réussi, mais n'ont pas réussi à tenir, quoi, dans la durée. Voilà. Il y a eu ces tentatives-là, il y a eu, encore aujourd'hui, il y a eu les cheminots de Narbonne, donc là, on est plus dans le même département, mais ça impacte le même réseau, dans le Languedoc-Roussillon, qui a fait un blocage total de la gare de Narbonne aujourd'hui à partir de 4h du matin, qui a tenu un petit temps et qui a pas mal impacté le... ce qui reste d'être trafic, qui est déjà quand même pas mal perturbé par ici. Donc il y a des petites tentatives de blocage. Mais nous, en tant que travailleurs de l'éducation, on a très très peu été porteurs de ces propositions-là, quoi. Il y a eu un début de blocage du rectorat un mercredi matin qui a tenu 1h30, 2h.
D'accord. Ouais. D'accord. Et vous, mais vous restez toujours dans le cadre de l'éducation nationale, quoi. Il y a au niveau de l'ouverture à d'autres gens qui seraient en lutte, par exemple, je ne sais pas, les cheminots évidemment, mais aussi peut-être d'autres personnes. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'assemblée générale des gens qui sont en lutte.
Ben, malheureusement, pour l'instant, on est confronté à une situation aussi que localement, il y a très peu de secteurs qui ont été en lutte dans une logique de reconduction, quoi. Donc les liens avec les cheminots, ils se sont tissés tout doucement déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques camarades cheminots qui sont venus dans les AG éducation, mais pour l'instant ça n'a pas dépassé ce stade-là. Il n'y a pas encore d'AG commune, on a du mal à franchir le cap de l'interpro, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qu'on franchit le cap, quoi. Et puis bon, c'est pas non plus une région où il y a énormément d'entreprises, quoi. Donc voilà, après il y a toujours le dépôt de carburant qui est une cible un peu qui revient de façon récurrente, mais c'est vrai que c'est un point de blocage qui est difficile à tenir sur lesquels la police intervient assez rapidement en général, quoi. Et pour les liens après interpro, c'est un des enjeux de ce qui va, je pense, de ce qui arrivera à partir du 9. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais.
À mon avis, là-dessus, il faut qu'on franchisse un cap, quoi. Mais on pèse toujours plus si on est dans une vraie logique de reconduction pour pouvoir construire ces liens-là, quoi.
Pour toi,
sinon, ça reste les syndicats qui assurent cette espèce de lien entre les différentes corporations, quoi.
Pour toi, une des clés de la réussite de la journée du 9 et quelque part du mouvement et de son amplification, c'est la reconduction de la grève et la recontinuabilité des différents secteurs. C'est ça ?
Bah, là, de toute façon, je pense qu'on n'a plus trop... Enfin, à mon avis, il n'y a plus beaucoup d'options. Il n'y a plus beaucoup d'options. Les cheminots, ils en seront à quasiment 35 ou 36 jours de grève. À mon avis, si on ne reconduit pas là... Je sais pas trop ce que ça, enfin, c'est pas trop quel signal ça envoie, ni ce que ça signifie, quoi. Mais à mon avis, on n'a pas d'autre option que de reconduire et de reconduire de manière plus tenue, quoi. Ça veut dire le 9, c'est le 9, c'est à partir de ce jour-là qu'on retourne pas travailler, quoi.
Et alors, comment le faire, puisque tu l'as souligné, par exemple, en prenant, alors, ton cas personnel, parce qu'on a envie de parler de toi, même si faudrait écrire un jour ta biographie, mais voilà, à l'intérieur de l'éducation nationale et dans pas mal de rapports au travail, eh ben on a des contrats de merde et des contrats petits qui fait que on a l'impression que si on fait grève, ben on va se faire cartonner d'une part et que ça sert à rien, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah moi je pense exactement l'inverse. Je pense que justement parce qu'on a des contrats de merde, on a peut-être pas tant que ça à perdre et pour se jeter un peu à fond dans la bataille, quoi. Enfin, bon, moi c'est comme ça que j'essaye de dire d'en parler à mes collègues précaires, quoi. C'est de leur dire là on a quand même l'occasion d'en découdre qui nous est donnée par rapport à quand même tout le mépris, tout ce qu'on se reçoit un peu dans le fait de travailler quand même pour très peu, enfin tu vois, de galérer à la fin de chaque mois en travaillant quand même assez dur, on va dire, quoi, parce qu'on est sur des contrats de 40 heures hebdo dans un collège en ce qui me concerne, et pour un SMIC, quoi, qui est voulu pas, donc en fait qui donne pas voilà qui qui c'était une vie, c'est pas une vie, comment on va dire, on n'a pas des conditions de vie qui sont magnifiques, quoi. Donc c'est aussi l'occasion, ces mouvements-là, c'est aussi l'occasion de pouvoir situation. Ah. Donc, mais c'est vrai que la peur de pas être conduit, elle pèse chez certains collègues. Donc c'est pour ça aussi que nous, dans l'établissement, on a mis en place une enveloppe spécifique pour permettre à des collègues de la vie scolaire de participer au moins aux grosses journées, quoi, au temps fort.
Ouais, c'est ça, et que personne ne soit exclu du mouvement social. Et il faut le dire pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'on pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment des contrats de merde hein, qu'on a quand on est précaire à la vie scolaire dans l'éducation nationale. Et puis
c'est là que quand il y a des grèves, si les collègues la font pas à ce moment-là, ils passent vraiment des journées de merde.
Ouais, à fond, elles sont toutes seules et elles mangent tout. Et puis quelque part, il faut surtout pas laisser s'installer. Comme tu l'as dit au début, que ce mouvement serait un mouvement où on agirait par procuration, soit par la solidarité dans les caisses de grève, ou parce que il y a les cheminots et la RATP qui font grève et que eux ils nuisent à tout le mouvement. Il faut pouvoir se retrouver et s'impliquer dans ce mouvement. Alors c'est vrai que pour des travailleurs comme toi et moi qui avons un rapport au travail un petit peu distant, on va dire, ou une carrière très très bordélique, la retraite, ça peut nous apparaître comme quelque chose de très très loin, quoi. Mais on le disait au téléphone dans nos conversations, il y a pas que ça. Dedans, on met tout, quoi. On met aussi un rejet de ce système, un rejet de Macron, une expression de notre caractère de classe qui est tout à fait symbolisé, parce que en face, le discours, il est clair. C'est un discours d'attaque, de bourgeoisie, de combat, et que nous, il faut qu'on réponde avec nos armes, quoi.
Bah là-dessus, c'est clair que de toute façon, dans ce mouvement, presque le gouvernement, en étant aussi clair et aussi limpide sur ses intentions, il nous donne des cartes en vrai, hein, pour moi. Et c'est l'occasion d'y aller sans se cacher. C'est vrai que moi, à titre personnel, moi je suis condamné au minimum vieillesse de toute façon pour l'instant dans l'État. Donc il n'y a pas de. Je joue pas une carte essentiellement qui est liée à personnel. Et elle devient dans le sens où c'est peut-être avec cette réforme des retraites, c'est peut-être une qui vise à nous faire toujours travailler plus longtemps pour toujours moins d'argent, qui veut réduire on arrête de travailler et celle où on va mourir au maximum en fait. C'est peut-être cette occasion là de montrer que c'est peut-être celle de trop, quoi. Et en tout cas, moi, j'ai senti des choses qui changeaient dans le discours de certains collègues. Il y a une détermination qui est différente, quoi. Il y a qui fait que certains collègues, ils voient pas forcément la fin de ce mouvement. Ils sont prêts à aller très très loin. Maintenant qu'on a commencé, on trouve plus de raison à arrêter, quoi.
Oui, ça c'est un point vachement important. Il y a pas mal de gens qui se sont impliqués dans le mouvement, qui ont repris une confiance, qui ont repris de la dignité et qui ont repris du plaisir. Et c'est vrai que ça fait vraiment comment dire extrêmement plaisir de voir la mine déconfite des partisans de La République En Marche, en tout cas ce qu'il en reste, de ses représentants, être complètement désingués par la réapparition de la question sociale, quoi. C'est-à-dire que si les gens avaient oublié que ceux qui faisaient tourner la société, ben c'était les travailleurs, il y a eu un très très fort rappel à l'ordre qui a été donné ces derniers jours, quoi.
Ouais, c'est ça. Après voilà, bon, maintenant par contre il faut pas non plus se cacher qu'on a quand même on n'a pas encore pour moi trouvé le bon trouvé la bonne formule qui nous fasse vraiment complètement nous réapproprier la lutte, qui nous ça reste encore, pour moi ça reste encore à construire, en tout cas par chez nous, avec vraiment des assemblées de grévistes qui dicteraient le rythme de la lutte et qui organiserait les blocages et qui tout ça, c'est pas pour le moment, malheureusement, c'est peut-être négatif, si j'ai pas changé à partir de lui,
On en parlait avec notre
ce pas là quoi.
Ouais, non, mais on en parlait avec notre précédent interlocuteur. C'est des problèmes qu'on retrouve un peu partout, quoi. Il y a une incapacité et il y a, comme dire, de s'auto-organiser pour se doter d'outils décisionnels et de pratiques qui nous permettent d'agir, quoi. Même si il peut y avoir des traces par-ci par-là, on est très très en retard, quoi. Mais bon, ça coûte rien de retenter le coup, hein. On va voir.
Oui, oui. Moi, je pense qu'on en est pas loin parce qu'il y a quand même une dynamique qui s'est enclenchée. Par chez nous, et là je vais encore parler de l'éducation dans le secteur de l'éducation, il y a à plusieurs endroits du département, ont commencé à s'initier et à se structurer petit à petit ce que nous on appelle des AG de secteur en fait, c'est-à-dire des AG géographiques. Un collègue du secondaire, mais par quartier de Montpellier, peu, donc c'est aussi une forme de
On t'entend mal.
Ouais, il y a plein de micro coupures. Ouais.
Écoute,
en tout cas, moi dans mon cas, mise avec les collègues du lycée d'à côté.
Bon, ça devient de pire en pire. Yann, merci beaucoup.
Merci, ouais.
On va te souhaiter bon courage. On s'excuse pour les auditeurs. Il y a eu plein de micro-coupures, à mon avis on n'était pas tout seul sur la ligne, mais on va se rappeler, on se tiendra au courant évidemment, et en tous les cas bon courage pour la suite de ta lutte là-bas, tout en bas là-bas dans le sud. Nous on refait une pause musicale et on termine avec d'autres camarades du Poitou.
Moi volontiers.
Alors je crois qu'on va continuer là, enfin je sais pas, je crois, si j'en suis sûr, on va continuer avec Jean-Pierre du Poitou. Tu nous entends ?
Oui, je vous entends très
bien. Oui, très bien, super. Alors raconte-nous un petit peu ce qui se passe ces derniers temps dans le Poitou.
Bon, alors pour revenir un tout petit peu en arrière, l'ambiance était au début des festivités d'un accord plein et entier au fait qu'il n'y ait pas de trêve.
Hein, oui, c'est ça,
comme c'était un peu indiqué, comme c'était un peu suggéré par certaines forces syndicales, etc. Mais la base, bon. Mais bien entendu, quand on est sur cette position-là, on est toujours un petit peu inquiet. On regarde un peu en espérant que ça va se passer bien et que la trêve, elle aura vraiment pas lieu. Alors, dans le Poitou, on peut dire que pendant cette période des fêtes, il y a eu plein d'actions qui ont été menées.
Ouais.
Alors, je vais dire le côté positif, hein. Il y a eu ce qu'on appelait des distributions, il y a eu des divs de tracts en centre. centre-ville, dans les zones industrielles, etc. Il y a eu une intéressante manif de nuit le 3 janvier en centre-ville, où il y a eu 800 personnes.
C'est pas mal, hein.
Avec vin chaud et tout ça. Je signale pour les auditeurs que la région de Poitiers, c'est 100 000 habitants, ouais, là. Ouais. C'est pour situer un petit peu. Oui. Et avec un emploi essentiellement tertiaire. Hein, ouais. Voilà. Donc il n'y a pas de grosses industries, il y a les cheminots, etc. Bon, voilà. Donc il y a eu toute une série d'actions qui ont été menées, qui ont été intéressantes, qui ont montré qu'il n'y avait pas de trêve. Par contre, il y a eu un échec, un échec relatif, c'était de pénétrer un petit peu dans des zones du privé qui sont particulièrement difficiles à mettre en grève. Et chez nous, c'est au Futuroscope, par exemple, les plateformes téléphoniques où il y a des centaines de personnes qui sont martyrisées dans l'emploi et dans la précarité. Et là, il y avait un projet, c'était déjà pas mal de faire ce projet, d'aller dans les centres d'appel du Futuroscope. Ça n'a pas pu se faire parce que tout ça doit se faire tôt le matin. Enfin voilà, ça fait partie des choses qui n'ont pas été faites. Alors, dans ces trucs, côté gilets jaunes, alors les gilets jaunes, ils ont toujours maintenu leur présence au grand rond-point, à Auchan, mais avec un fort nombre de gens, avec une diminution assez forte quand même, mais un noyau quand même très très consistant de plusieurs dizaines de personnes, et surtout qui en veulent et qui sont très actifs. Voilà, on parlera peut-être un peu tout à l'heure des problèmes qu'il peut y avoir avec l'intersyndicale, voilà. Voilà, pour ça, donc ça a été bien meublé, la non-trêve.
D'accord.
Je peux vous parler un petit peu des rapports entre l'interlutte et...
Bien sûr, voilà. Vas-y. Ouais. Voilà, ah ouais. Vas-y. Quelles sont d'ailleurs vos structures d'organisation et de décision? Une interlutte et une intersyndicale, c'est ça?
Voilà. Une interlutte et une intersyndicale. Alors l'interlutte, elle s'est mise en branle bien avant le 5 décembre. On a presque pratiquement un mois avant, on avait constitué un peu une interlutte qui s'était réunie dans un premier temps à l'extérieur et puis après dans le local Anard, voilà, qui a rassemblé, disons, parfois 30, 40, 50 et jusqu'à 60 personnes au début du mouvement. Et elle regroupait des gens de différents collectifs organisés ou non, et même parfois avec un ou deux cheminots CGT ou trois ou quatre, enfin parmi évidemment les plus radicaux. Et puis des gens comme le NPA, le Comité Palestine, etc. Bon. Après, cette interlutte, elle n'a pas arrêté de fonctionner avec des hauts et des bas. Et évidemment, il y avait les Gilets jaunes. Et comme les Gilets jaunes, depuis un moment, se réunissaient dans notre local, ils ont été intégrés directement dans ce collectif. Je veux dire qu'il y avait aussi les militants de Sud, hein, dans cette interlutte, qui, évidemment, eux aussi, sont dans l'intersyndicale. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, mais je pense que ça se passe un peu partout, c'est que ça a pâti un peu de... On sait très bien que les Gilets jaunes étaient extrêmement méfiants vis-à-vis des syndicats, globalement, mais aussi des bureaucraties syndicales, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est justifié. Et que les syndicats étaient eux aussi extrêmement méfiants vis-à-vis des Gilets jaunes. Alors, dans une petite ville moyenne comme Poitiers, les gens se connaissent, se croisent, et ça, c'est un des trucs importants dans ce mois de lutte. C'est que dans une structure comme cette ville moyenne, les gens se croisent et se recroisent et se voient, et ça finit par former un espèce de truc qui n'est plus du tout dans les rapports traditionnels politiques, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, comme dans les manifs, alors je précise pour les manifs pour Poitiers, une grosse manif en ce moment c'est 8-9 000 personnes,
ouais,
une moyenne c'est 3-4 000, hein, bon, c'est... voilà, mais c'est un noyau militant ou actif ou qui bloque ou qui se retrouve à différentes occasions qui est de gens qui finissent par se connaître, se croiser, qui se regardaient en chien de faïence mais qui se regardent un peu moins. Voilà. Donc il y a fondamentalement cette méfiance, pour le moins j'appelle ça méfiance pour être gentil, entre gilets jaunes et structures syndicales, et pas n'importe qui dans les syndicats non plus, parce que Sud est très impliqué aussi avec les Gilets jaunes. Sud a toujours participé à Poitiers, en tout cas, au rassemblement des Gilets jaunes. Voilà. Alors, il y a le problème, ça a été comment ces deux structures pouvaient se retrouver. Il y en a une qui est quand même beaucoup plus puissante que l'autre, mais une autre qui est plus proche de la base et qui représente aussi des initiatives. Alors, à plusieurs reprises, nous, on a joué le fait qu'il fallait que ça soit commun. Hein. On a toujours lutté pour que, enfin, essayé de lutter pour que les réunions ne se chevauchent pas, c'est-à-dire qu'elles aient lieu au même moment, mais ensemble. Ce qui n'a pas été toujours le cas, ce qui n'a pas été toujours facile, mais malgré tout, hein, par exemple, il y a 4, 5 jours, 6 jours, il y a des jeunes qui se sont fait choper par les flics, d'autres jeunes sont arrivés à l'intersyndicale où on était, on dit, il y a des gens qui se sont fait arrêter, il faut y aller. Tous ceux qui étaient au comité interlutte ont quitté la réunion et sont allés devant le commissariat, mais une partie du aussi de l'intersyndicale y est venue. Ce qui fait qu'on avait, ce qui s'était jamais vu à Poitiers, un rassemblement de 200 personnes devant le commissariat, en pleine nuit, à 10h du soir, 9h du soir, gueulant contre les flics et libérer nos camarades, qui regroupaient aussi bien des radicaux que des cheminots CGT, que toute la panoplie qu'on peut voir en ce moment sur les luttes, voilà. Et ça, c'est extrêmement positif.
Ah, c'est positif, hein. Oui, voilà. c'est des moments comme ça qui font que, justement, tu dis, avec, après, voilà, qu'on prend conscience de sa force et qu'on peut ne pas être, totalement identique et pourtant agir ensemble, quoi.
Voilà, exactement. Et ça, c'est des moments qui peuvent se créer dans des moments comme ça, dans des réactions sur la répression, mais également dans des blocages. C'est évident que quand on va à 5 heures du matin quelque part, même à l'initiative de la CGT pour faire un truc comme ça, on boit un coup, on boit un café, enfin bon, il se crée des rapports humains qui peuvent outrepasser les clivages politiques, quoi. Enfin politiques ou syndicaux ou autres, voilà. Ça c'est très important. Sur le plan, je voulais signaler aussi qu'il y avait des stratégies un petit peu différentes qui se gomment peu à peu. Lors d'une première réunion intersyndicale, les intersyndicales, je précise, elles sont ouvertes.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ah oui,
oui. Alors, je ne me fais pas d'illusions, je sais très bien qu'un secrétaire fédéral peut téléphoner à un autre secrétaire fédéral et boire un pastis ensemble pour réglementer avant comment ça va se passer en AG. Hein. Je suis pas naïf. Mais c'est public. C'est public, ce qui fait que même des gens de nous, on y va. Bon. Mais bon, là, ils ont le pouvoir. Il faut reconnaître que... Eh bien, sur le tempo de la lutte, c'est quand même les syndicats qui l'ont. Les comités interlutte, nous on le constate ici, mais je pense que c'est ailleurs aussi vrai, n'ont pas la main sur le tempo, oui, de la lutte. Elles ont la main sur la mobilisation, une petite main sur la mobilisation locale, sur les initiatives qui peuvent se prendre, mais on n'est pas dans une période insurrectionnelle où le peuple va remplacer les structures existantes. Bon. Voilà. Et alors, dans une de ces réunions, il y avait bien, on était à la maison du peuple, là. On n'était pas dans le local Anard. Le local Anard, il tient 60, 70 personnes, mais pas 200, 300. Et, il y avait deux positions, hein, par rapport aux initiatives. T'avais les, c'était quand même une réunion de gens qui étaient, disons, plus à gauche que la bureaucratie de la CGT. Il y avait les oppositions syndicales traditionnelles, des groupes politiques, des oppositions qu'on peut rencontrer à la FSU, qu'on peut rencontrer à FO, qu'on peut rencontrer, voilà. Et une partie de ces oppositions syndicales disait, ce qu'il faut, c'est que le comité, les structures de lutte, l'interlutte, participent à fond et tout le temps aux initiatives syndicales. Et donc, ils militaient pour que non seulement on y participe, mais qu'on ne prenne pas d'initiative. Et nous, les libertaires et Sud, ont maintenu la position qu'il fallait effectivement aller aux initiatives, je parle des initiatives de blocage, de distribution de tracts, etc., aller, mais il fallait aussi qu'on ait nos propres initiatives. Et c'est donc les Gilets jaunes Sud, disons, et les libertaires et d'autres oppositions, ont maintenu le fait que l'interlude devait avoir sa propre autonomie, d'accord, y compris dans les initiatives. Et ça, c'est ce qui a été retenu jusqu'à présent, même si c'est beaucoup plus difficile À maintenir,
ouais.
C'est-à-dire voilà. Que vous avez été capable de vous constituer en, comment dire, en force ou en proposition, déjà, peut-être pas en force, mais
alors,
en forme de proposition, quoi.
Ne rêvons pas, ne faisons pas. Oui, alors là, là, on a rédigé un petit texte qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a constaté à la dernière réunion, alors plus ou moins libertaire, que on était un peu sous-estimé, on laissait un peu les choses se faire, et donc on a décidé de porter à la prochaine réunion, à la prochaine intersyndicale évidemment ouverte, tout ça, un texte dans lequel on rappelle tout ce qu'on a à défendre et tout ce qu'on a fait, etc. Et donc de se poser justement en ce que tu dis, c'est-à-dire en une force autonome qui a son mot à dire et qui continue à faire son travail. Chose qu'on a toujours du mal, évidemment, dans le milieu à faire. On fait des choses. C'est d'arriver à ne pas servir de.
Ouais, de bétail.
De bétail, ouais. Enfin, ouais. De bétail, le mot est un peu fort, mais enfin, de faire valoir, tu vois, on mobilise, mais c'est pas nous qui tirons les
ficelles, ouais.
Voilà, les ficelles. Donc voilà, justement, dans le sens que a dit le camarade avant, on verra si ce texte va pouvoir être lu. Voilà, mais sinon, bon, bah, le moral est pas mauvais. Là, on a prévu, nous, de faire, par là, là on pré- il se prépare un peu la, les manifs, là. La,
le 9, ouais.
Le 9, alors il est prévu une AG interpro, après la manif, comme toujours, donc c'est là qu'on doit lire éventuellement un texte. Il y a des négociations sur qui nous échappent sur le parcours, parce que ça bon, enfin, peu importe. Et alors, ce qu'on fait, nous, c'est le mercredi, donc la veille, on fait un repas dans notre local, à la grotte, un repas de l'interlute. Voilà.
D'accord,
pour voir comment intervenir dans l'AG, du lendemain, pour discuter des problèmes entre l'intersyndicale et le comité interlute, dépasser la méfiance réciproque, mais pas non plus s'écraser, enfin voilà. Bon, c'est dans la mesure où l'interlute a tendance un peu à fondre en ce moment, évidemment, avec Sud qui était au départ, mais qui a tendance à se retrouver un petit peu pris en sandwich entre le comité interlute et puis l'intersyndicale, dont elle fait partie. Il semblerait que bon, les forces de gauchistes, le NPA et même l'UCL ont plus tendance à aller maintenant à l'intersyndicale que par leur biais de leur syndicat qu'à l'interlute. Enfin bon, alors on verra. C'est une lutte politique à mener. Hein. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire rapidement, là, très, très rapidement.
Bah, c'est déjà pas mal, et en plus, ça permet de voir les enjeux, effectivement, si toutes... Alors, parce que tout le monde a les yeux rivés sur Paris, parce qu'il y a la grève du métro, et comme
oui,
d'habitude, il y a l'hégémonie
oui,
politique,
oui.
Mais dans tout ce qu'on a entendu au cours de ce dernier mois et ces dernières semaines dans les interventions que nous faisaient les camarades en province, c'est vraiment la richesse de ce mouvement, sa force et ses commencements de début de structuration en dehors ou à côté ou en parallèle des intersyndicales, je ne sais pas comment les nommer, qui... très lentement, ont tendance un peu là à s'agréger, à se conglomérer, et ça va être un des enjeux pour la deuxième partie du mouvement, quoi.
Et pas seulement pour la... Oui, bien sûr, ça, je suis tout à fait d'accord, pas seulement pour la deuxième partie, pour l'avenir aussi des luttes, hein, sauf si on pense qu'il va y avoir la révolution sociale.
C'est le samedi, hein.
Mais est-ce que ce mouvement-là va être aussi un moment par rapport à des recompositions organisationnelles, pas au sens de parti, mais une recomposition de la représentation des luttes, quoi. Ça peut jouer un rôle important dans les débats syndicaux après, dans les congrès de la CGT, dans le positionnement de Sud. Ça va se poser dans le Sud. Est-ce qu'il joue la carte de base? Ou est-ce qu'il rentre complètement
dans l'appareil, ouais.
dans la bagarre d'appareil. Enfin voilà, c'est la force aussi de ce que sera le mouvement à la base. Puis bon, évidemment, c'est dans l'immédiat, c'est ce qui va jouer dans les 8-10 jours. Oui, ça c'est clair.
Oui, c'est ça. Et mais voir si ce mouvement des Gilets jaunes et ces groupes de Gilets jaunes, malheureusement pas majoritairement, mais qui se sont percutés, qui sont entrés dans le mouvement social plus traditionnel, appelons comme ça, je sais pas comment le dire.
Ouais.
Est-ce que ça va provoquer justement un retour à un mouvement basiste ou est-ce que ça va se mélanger, ça va faire du orange?
En tout cas, c'est très bien que les gilets jaunes, ou du moins ce qu'il en reste, mais c'est pas au sens péjoratif, parce que ce qu'il en reste est peut-être mieux d'ailleurs.
Le meilleur, ouais.
C'est peut-être bien qu'il se soit pas mélangé, qu'il reste une force contestataire, en tout cas qui interroge en dehors des joutes traditionnelles syndicales et politiques, quoi.
Qui joue son rôle d'aiguillon, ouais.
Bah oui, je pense que c'est important, d'autant plus important que ils ont pas fait ce que beaucoup souhaitaient qu'ils fassent, à savoir se doter d'une représentation et de structures. Il y en a trop des structures et des représentations.
Largement assez, ouais.
C'est pas la peine d'en créer d'autres, ils ont au moins compris ça. Et après, je sais pas trop. Alors là, ça doit dépendre vraiment des endroits, tu vois. Enfin, moi, ça me fait un peu rigoler, les gens qui étaient réticents, qui sont toujours réticents vis-à-vis des gilets jaunes, en disant que c'est une force réactionnaire et tout ça, c'est un peu rigolo, quoi.
Ah oui, oui, complètement.
Alors qu'ils jouent un rôle important dans ce mouvement, mine de rien.
Ben là, ça dément totalement les premières tentatives d'analyse ou les analyses réactionnaires qu'il peut y avoir au début du mois de décembre, quoi.
Oui. Voilà. Ah ben, Jean-Pierre, on va se quitter, malheureusement, là, puisque le temps qui est parti, on va rappeler quand même que le numéro de Con Alternatif, le numéro de janvier, est sorti sur Reims. Vous l'aurez plus tard, rapprochez.
Bon, il est beau.
Il est très beau,
mouvementiste. Il est composé essentiellement de relations des différents mouvements à l'intérieur des différentes villes dont on est passé. Et il y a la suite toujours et encore de la réflexion de notre camarade commune sur le féminisme et sur ses propositions et ses analyses. Mais ça, vous l'aurez dans les mains. Vous pourrez venir le chercher jeudi dans la rue. Voilà.
Très bien. Eh ben, écoute, vous l'avez tiré à 20 000 exemplaires. Alors.
Tout à fait, exactement. Bon courage pour jeudi, Jean-Pierre. À très bientôt.
Allez, ciao, ciao.
Salut.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Grégores chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal-Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.